Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. L'émission de ce soir va clôturer un cycle de 3 épisodes que j'avais nommé le cycle des inquisiteurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par les inquisiteurs ? Je ne fais pas référence uniquement à l'inquisition de la période médiévale et de la Renaissance liée à l'Église catholique. Je fais référence à ce que j'appelle l'inquisition de la pensée. Les personnes qui, par idéologie, par conviction, par religion ou toute forme d'idéologie politique ou autre, vont décider d'empêcher les autres de penser, de limiter leurs pensées et leurs actions, et parfois par des actions violentes. C'est notamment le cas des hérétiques qui ont été combattus par l'Inquisition au sens strict du terme pendant la période médiévale. Je pense notamment à l'hérésie cathare, les vaudois, mais plus anciennement on pourrait parler des courants du gnosticisme de l'Antiquité. Le deuxième épisode, j'avais traité du sujet de la chasse aux sorcières, donc ce n'est pas seulement l'Inquisition catholique qui s'en est pris aux sorcières, c'est en l'occurrence tout un tas de tribunaux laïcs, des juges, qui ont combattu les sorcières pour tout un tas de raisons et qui, dans beaucoup de cas, les ont conduits au bûcher. Là, dans ce troisième épisode, le sujet sera un peu plus technique, un peu plus fin et un peu plus nébuleux, puisque l'on va parler de l'Inquisition face au domaine des sciences occultes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, les sciences occultes, on va définir un petit peu le terme et les contours, les sciences occultes, depuis toujours, du moins depuis très longtemps, ont été combattues. Combattues verbalement, combattues textuellement, combattues par la prêche, combattues aussi dans la violence, et parfois il y a eu aussi des exécutions, des poursuites, des emprisonnements et tout un tas d'autres choses, envers les personnes qui se définissaient ou qui pratiquaient des activités de l'ordre des sciences occultes. Alors, dans l'émission de ce soir, on va retracer un petit peu l'histoire de ce combat contre les sciences occultes. On va évidemment aborder le fait que les religions abrahamiques, le christianisme, l'islam et le judaïsme dans une certaine mesure, ont combattu les sciences occultes. On va parler aussi de la science, c'est-à-dire de scientifiques, des scientismes, dans l'immense majorité des cas, qui se sont opposés aux sciences occultes. Alors, il ne s'agira pas de prendre la défense des sciences occultes pour dire « Ah, les sciences occultes, c'est une horrible persécution qui les visait ». Non, 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 on n'est pas forcément dans le cadre de l'hérésie ou des sorcières. Cette fois-ci, on va observer donc pourquoi des scientifiques et pourquoi des religieux se sont pris aux sciences occultes, de quelle façon ils s'en sont pris à eux, mais surtout quels sont leurs motifs. Pourquoi ont-ils critiqué, accusé et parfois condamné les sciences occultes? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Puisque le problème étant que les sciences occultes, c'est un domaine relativement vaste, aux contours mal définis, évolutif dans le temps, et qui regroupe tellement de pratiques, ce qui fait que certaines d'entre elles étaient condamnées et certaines ne l'étaient pas obligatoirement. Donc on va voir que c'est assez complexe. Alors, n'allons pas trop vite et présentons tout d'abord le plan de cette conférence. Tout d'abord, donc, un monde de paradoxes aux contours mal définis. Ensuite, la critique des sciences occultes au cours de l'histoire, notamment dans les mouvances religieuses, notamment via les différents domaines de la science, mais aussi via des adeptes de l'ésotérisme qui s'en sont pris aux sciences occultes. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera de la guerre au sens strict aux sciences occultes, c'est-à-dire les différentes condamnations, les différentes ostracisations qui ont lieu face aux sciences occultes, en gros, tous les moments historiques où les adeptes des sciences occultes ont été persécutés sous une forme ou sous une autre. Ensuite, en troisième partie, pourquoi l'occultisme existe encore aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment la question de fond. Puisque on comprend pourquoi l'hérésie a disparu, elle a été détruite tout simplement, on comprend pourquoi la sorcellerie des temps anciens a disparu, même s'il y a un réveil aujourd'hui, on comprend. Mais les sciences occultes, vu qu'elles sont persécutées depuis des millénaires, pourquoi en ce 21e siècle y a-t-il encore des gens qui se réfèrent aux sciences occultes? Pourquoi y a-t-il des gens qui y croient? Et y a-t-il d'ailleurs toujours des gens qui les combattent? Eh bien on va voir qu'il y a des raisons à cela, et c'est assez complexe mais passionnant. Alors, ensuite, bien sûr, une conclusion personnelle et une bibliographie si vous voulez poursuivre vos recherches personnelles. Alors, tout d'abord, introduction à un monde de paradoxes aux contours mal définis. Les sciences occultes, et bien sûr un plan religieux, Dieu ou Allah, n'aiment pas les sciences occultes. Ils n'aiment pas ça, c'est dit dans les textes, c'est dit dans la Bible, c'est dit dans le Coran, les sciences occultes sont interdites et c'est une volonté propre de la divinité. C'est un interdit d'ordre divin dans le cadre des trois religions monothéistes. Pour citer l'Exode 22:18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Là, c'est très clair, toute personne qui s'adonne à la magie doit être mise à mort. C'est terrible comme sanction. Dans d'autres passages, dans le Deutéronome, on vous dit par exemple que s'il y a des personnes qui font passer le bétail par le feu, s'il y a des devins, s'il y a des personnes qui pratiquent des enchantements, il faut les mettre à mort sur un plan judiciaire. Donc c'est totalement interdit. Ensuite, sur le plan religieux, c'est un peu plus complexe, mais la résultante est plus ou moins la même. Sur un plan scientifique, les sciences occultes, sous toutes leurs formes, sont définies comme étant une pseudo-science. Alors qu'est-ce que ça veut dire pseudo-science ? Pseudo-science, c'est une science qui n'est pas véritablement une science. Donc, sous-entendu, si ce n'est pas véritablement de la science, eh bien c'est une pseudo-science. C'est une façon de dire, les sciences occultes ne répondent pas à une méthodologie scientifique, à cause de tout un tas de raisons que nous allons évoquer au cours de la soirée, mais malgré le fait que ceci est déclaré comme une pseudo-science, il y a tout un tas de gens qui tentent de lui donner des contours scientifiques. Alors on va appeler ça parascience, on va appeler ça parapsychologie, métapsychique, ou tout un tas d'autres noms en l'occurrence. Mais on voit que malgré toute la démonstration scientifique qui fait que les sciences occultes appartiennent au domaine des pseudo-sciences, eh bien il y a quand même tout un tas de scientifiques qui s'y intéressent quand même et qui tentent de l'étudier. À tort ou à raison, c'est un autre sujet. Enfin, dernier propos, sur le plan social, car c'est très intéressant. Les sciences occultes, c'est bizarre, c'est louche, c'est suspect, mais néanmoins, ça fascine quand même beaucoup. Et ça, c'est l'élément sûrement le plus intéressant. Les sciences occultes sont condamnées depuis toujours, par les religieux, par les scientifiques, sous différentes formes. Mais malgré ça, les sciences occultes sont présentes dans la société. Il y a des gens qui pratiquent le vaudou, par exemple. Alors dans le village, il y a une vieille dame qui pratique du vaudou. On s'inquiète un peu, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas, on sait que c'est pas vraiment réel tout ça. Mais on a quand même un petit peu peur quand on la croise. Ça fascine et ça terrifie. On a aussi tout un tas de personnes qui, de culture chrétienne, même croyantes dans une certaine mesure, savent pertinemment que le spiritisme s'est interdit. Mais on va quand même faire une petite séance adolescente pour tenter de voir si ça marche. Donc, on a toujours cette ambivalence sociale. Les sciences occultes sont interdites, ou sont une pseudo-science, ou sont diaboliques. Mais néanmoins, ça nous attire parce que c'est un côté sulfureux et interdit. Et là, ça nous renvoie à la première critique d'ordre religieuse qui dit les sciences occultes sont interdites dans les religions traditionnelles, enfin dans les religions historiques. Mais pourquoi c'est interdit? La question est posée. Est-ce que Dieu interdit les sciences occultes parce que c'est dangereux pour notre âme? Est-ce qu'il l'interdit parce que c'est l'œuvre du diable ou de Satan qui veut corrompre les âmes humaines? Ou alors, certains diront, est-ce que c'est parce qu'il veut garder le savoir secret pour lui seul? Eh bien, des gens se sont dit, en fait, les sciences occultes, ce sont les secrets les plus interdits. Donc, c'est les secrets qui concernent le divin lui-même. Et donc, les pouvoirs cachés dans le cosmos. Et donc, pourquoi les garde-t-il pour lui-même? Pourquoi n'y aurons-nous pas accès par nous-mêmes? Et donc, vous comprenez toute la fracture sociale autour de ce sujet fascinant. Alors, n'attendons pas plus et allons dans la première partie. Première partie, la critique des sciences occultes, tout d'abord par les théologiens et les auteurs religieux, ensuite par les philosophes et les critiques rationalistes, ensuite par les psychologues et les psychiatres, et ensuite par les scientifiques et sceptiques modernes, et nous conclurons avec la critique des sciences occultes par le milieu ésotérique lui-même, à commencer par des figures comme René Guénon, Roger Daché ou d'autres personnages importants de l'ésotérisme d'hier et d'aujourd'hui. Alors, avant de nous lancer dans cette première partie, il me reste un petit point à éclaircir. Dans cette émission, je vous l'ai dit, je n'ai pas pour ambition de prendre la défense des sciences occultes. Je vais analyser les critiques qui sont faites sur ce domaine et analyser les conséquences de ces critiques pour les adeptes des sciences occultes. Il ne s'agira pas de dire les pauvres victimes persécutées, etc. Mais il ne s'agira pas non plus de faire leur procès des sciences occultes. Je vais tenter au possible de rester le plus objectif possible dans cette émission. Néanmoins, il est normal que je vous confesse quelques éléments. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, je me définis moi-même comme un occultiste. Ce qui veut dire que j'ai tout un tas de croyances qui appartiennent au domaine très large des sciences occultes, et donc j'adhère à certaines choses. Donc, de ce fait, mon impartialité peut parfois être mise en défaut de par mes croyances. Je vous le dis. Néanmoins, malgré cela, je vais tenter, ayant conscience de mes croyances et étant capable de les compartimenter, je le pense du moins, je vais tenter de passer au-delà de mes croyances personnelles pour être, encore une fois, le plus objectif possible. Donc, ce n'est ni un procès des sciences occultes, ce n'est ni une critique des sciences occultes, ce n'est pas non plus une critique ou une défense des religieux ou des scientifiques, nous allons tenter d'être le plus neutre possible, bien entendu. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. Les théologiens et les auteurs religieux, pourquoi critiquent-ils les sciences occultes? Eh bien, tout d'abord, ils disent que c'est une dérive idolâtrique et démoniaque. Les sciences occultes détournent de Dieu en orientant vers les astres ou vers les forces tangibles ou les démons. Ensuite, pour eux, c'est une illusion de la connaissance. Présentées comme des sciences, elles ne produisent qu'un savoir trompeur fondé sur l'erreur et l'apparence. Ensuite, ce serait une atteinte à l'ordre moral et au libre arbitre. En prétendant connaître ou fixer le destin, comme la divination par exemple, elles détruisent la responsabilité humaine et l'équilibre moral. Ensuite, c'est une révolte intellectuelle contre Dieu, dans les cadres des trois religions abrahamiques. Issue d'une curiosité orgueilleuse, elle cherche à accéder au savoir caché en dehors de la révélation. Et enfin, c'est une pratique dangereuse malgré son efficacité. Même lorsqu'elles semblent fonctionner, elles sont condamnées car elles corrompent l'homme en l'éloignant du vrai. Alors, toutes ces critiques sont intéressantes et on commence par la fin. Tout d'abord, la plupart des, les trois religions abrahamiques ne contestent pas une efficacité possible des sciences occultes. Ils ne disent pas, quand vous faites de la divination, ça ne marche pas. Ils ne vous disent pas, quand vous faites de la magie, cela ne marche pas. Ils vous disent, attention, ça marche peut-être, mais ça marche pour de mauvaises raisons. Car dans la théologie des trois religions abrahamiques, et principalement du catholicisme, qui a le plus écrit sur le sujet, le démon existe. Le démon est une puissance qui existe dans l'univers, qui n'est pas matérielle, mais qui est partout. Et donc qui a la capacité de vous tenter, de vous parler, de vous suggérer des idées et de vous donner même des réponses et du pouvoir. En ce sens, quand vous faites une divination, vous interrogez les astres et tout un tas de forces invisibles, et ça marche. Ça vous donne des réponses, mais en réalité, dans ces théologies, c'est le diable qui vous répond et vous induit donc en erreur. Pareil, vous faites un rituel de guérison pour barrer le feu ou une petite prière de votre invention pour utiliser une énergie, comme le Reiki par exemple, pour soigner quelqu'un. Eh bien là aussi, les théologiens vont vous dire « Attention, attention, ce n'est pas parce que ça marche que c'est bien. » Parce qu'en réalité, c'est peut-être par l'entremise du diable ou des démons que vous accomplissez une guérison. Et donc c'est très mal, puisqu'en faisant ça, vous vous mettez en rapport, en relation avec le démon. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais si ça marche, si ça guérit, c'est une chose bénéfique. Donc c'est bizarre quand même, pourquoi le diable qui est maléfique voudrait, par sa puissance, vous accorder une guérison positive? Et bien les théologiens vont vous dire, oui, c'est vrai, en apparence, ça guérit, mais en réalité, plus loin. En fait, en utilisant le pouvoir du diable, vous concluez indirectement un pacte avec lui. Vous vous mettez sous son emprise, et donc il est à même ensuite de vous contrôler, de vous manipuler là où il le voudra par la suite. Donc peut-être qu'il vous offre des friandises pour mieux vous manipuler derrière. Et puis pareil, la personne que vous avez guérie, grâce à cette énergie, vous avez peut-être fait entrer en elle, certes une guérison d'apparence, mais n'y aurait-il pas des effets secondaires? C'est du moins comme ça que l'expliquent les théologiens. Autre chose, ils vont vous dire, oui, mais en fait, Les sciences occultes, la divination, la magie, la connaissance de l'avenir, le contact avec les morts ou le contact avec des entités. Vous faites ça pourquoi ? Parce que vous voulez accéder à la connaissance. Mais en réalité, quand vous faites ça, vous vous éloignez du message de la révélation, de la Bible, du Coran ou de la Torah, peu importe. Parce que tout est dit. Ce sont des messages dits révélés. C'est-à-dire que dans l'enseignement chrétien, par exemple, le Christ arrive, il y a son enseignement, puis les évangiles qui sont là pour transmettre, apporter la bonne nouvelle de son enseignement. Et donc tout est dit. Si vous cherchez au-delà, ailleurs, c'est soit parce que vous n'êtes pas satisfait de l'enseignement, et que vous cherchez au-delà, mais cet enseignement qui est ailleurs, il est peut-être erroné, il est faux, parce que souvent, il est contradictoire avec les enseignements christiques ou coraniques ou ce que vous voulez. Donc cet enseignement qui est différent, il n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre du diable qui, encore une fois, va vous nourrir de cette fausse science pour vous conduire vers de mauvais chemins. Autre chose, ils vont vous dire, bah oui, en fait c'est votre orgueil. Vous voulez toujours en savoir plus. Vous voulez devenir un dieu vous-même. Vous n'êtes qu'une créature. Vous voulez devenir dieu. Et donc en faisant ça, c'est un acte d'orgueil, un peu à l'image de Lucifer. Et de ce fait, vous ouvrez la porte aux démons et on en revient toujours à la même problématique. Donc ils vous disent, les sciences occultes, on comprend que ça peut attirer tous ces pouvoirs. Mais méfiez-vous, ce pouvoir, il est donné par la mauvaise personne. C'est ça, grosso modo, la grande, grande critique des théologiens au cours du temps. À cela, on peut rajouter un autre élément qui est assez important, sur, par exemple, le contact avec les morts. Ils vous disent, dans la théologie chrétienne principalement, les morts, en réalité, ils sont soit au paradis, soit en enfer, soit éventuellement en purgatoire. Mais on ne peut pas communiquer avec eux. Donc quand vous communiquez avec les morts, ce n'est pas des morts, ce sont des démons qui se font passer pour vos disparus, afin, encore une fois, de vous induire en erreur. Il y a également l'idée, sous-jacente, que si ces sciences occultes fonctionnent dans une certaine mesure, eh bien les personnes qui les utilisent peuvent agir sur autrui. Et vu que les sciences occultes sont l'œuvre du diable, eh bien fatalement, vous utilisez les pouvoirs du diable pour agir sur d'autres personnes et vous contaminez de ce fait d'autres personnes. Voici pourquoi, dans les théologies des trois religions abrahamiques, les sciences occultes sont interdites. Alors, maintenant, voyons quelques extraits très rapidement. Je ne vais pas tout citer, mais juste pour voir un petit peu quel type de critique existe. Alors, par exemple, Origène, dans Contre-Cels, écrit « Qu'est-il besoin, dit-il, que je fasse ici la liste de tous ceux qui ont enseigné à user d'expiation, à guérir les maladies, ou à déformer quelques malheurs par des chants et des paroles, et par des paroles, à faire des figures ou des images de démons, à se munir de divers préservatifs qu'on prétend trouver dans les habits, dans les nombres, dans les pierres, dans les plantes, dans les racines, et généralement de toutes sortes de choses. D'autre part, il dit, un esprit qui fait toute son étude d'apprendre le nom des démons et de chercher par quelle conjuration il pourra se les rendre favorables, sera regardé de Dieu comme un esprit méchant et impie qui tient plus de démons que de l'homme. Enfin, la magie n'avait de pouvoir que sur les ignorants et les débauchés. » Les ignorants et les débauchés, pourquoi ? Parce que dans la parole d'Origène et de d'autres pères de l'Église, enfin, Origène n'est pas un père de l'Église, mais c'est une figure majeure du christianisme des premiers temps, eh bien, pour lui, les sciences occultes, ça touche en fait les ignorants et les simples d'esprit, les gens qui n'arrivent pas à comprendre et à saisir le message christique, et donc qui vont chercher dans des chemins de travers, alors que la révélation est là. C'est des types de critiques qui existent. Pour en citer une autre, par exemple, on pourrait citer Thomas d'Aquin dans la Somme théologique qui nous dit « La divination qui se fait par la révélation des démons avec lequel on conclut un pacte est absolument illicite. » Plus tard, de telles observations sont ordonnées, de telles observances sont ordonnées à produire un effet, non comme des causes, mais comme des signes. Et en ce sens, elles révèlent de pactes avec les démons. Donc, on retrouve toujours, de façon omniprésente, cette idée que, quelle que soit leur forme, même les plus bienveillantes, même le pendule, le tarot, la méditation ou tout un tas d'autres choses, c'est toujours l'œuvre du diable. Je cite, par exemple, dans un théologien actuel, l'abbé Raffray nous dit que quand vous pratiquez du yoga, technique qui vient de l'Inde, eh bien, en fait, vu que vous cherchez à faire le vide dans votre esprit, il vous dit, je cite l'abbé Raffray, vous cherchez à faire l'absence de Dieu. Et quand vous faites l'absence de Dieu, Vous ne savez pas ce qui va venir derrière. Et donc, pour lui, les méthodes du yoga, c'est la porte ouverte aux démons. Encore une fois, c'est une pensée qui lui appartient. Donc, voyez l'idée, toutes les méthodes liées de près ou de loin de sciences occultes, c'est la porte aux démons. Alors, s'il n'y avait que ça, mais il y a autre chose. Oui, on trouve aussi des critiques dans le monde arabe et dans le monde juif, bien entendu, avec les critiques de l'astrologie, de la magie, sous toutes leurs formes, évidemment, qui sont condamnées dans la même mesure que dans le christianisme. Mais allons plus loin, car les religieux, ce ne sont pas les seuls à avoir critiqué les sciences occultes. On va également trouver des philosophes et des auteurs rationalistes. Tout d'abord, pourquoi critiquent-ils les sciences occultes ? L'irrationalité et la contradiction interne. Les sciences occultes reposent sur des raisonnements incohérents et incompatibles entre eux. Cicéron, Sextus et Pierre Bayle nous disent la même chose. Une fausse compréhension de la nature. Les sciences occultes attribuent aux astres et aux phénomènes des intentions ou des pouvoirs imaginaires, disaient Épicure, Lucrèce ou Francis Bacon. C'est encore une superstition et de la crédulité. Les sciences occultes exploitent la peur, l'ignorance et le besoin de sens des individus, disaient Lucrèce, Fontenelle et Voltaire. C'est la négation de la liberté et de la raison humaine. En prétendant prédire ou fixer le destin, elles contredisent la liberté et la responsabilité individuelle, disaient Cicéron et David Hume. C'est encore une imitation trompeuse de la science. Elle emprunte le langage du savoir sans en respecter la méthode ni les preuves, disaient Bacon, Bayle et Auguste Comte. Alors, les philosophes et les rationalistes n'attaquent pas les sciences occultes en raison du démon. Ils ne vous disent pas « si vous faites des sciences occultes, vous faites un pacte avec le diable et vous finirez en enfer ». Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils vous disent, c'est « les sciences occultes, par exemple la magie, vous faites des cercles sur le sol, vous invoquez ou psalmodiez des noms savants, vous faites des glyphes étranges et vous pensez agir sur le réel ». Mais tout ceci, objectivement, vous ne pouvez pas le démontrer. Tout ceci est basé sur de vieilles légendes, de vieilles croyances. Et objectivement, vous faites ça parce que vous ne comprenez pas les mécaniques du monde. On est déjà quasiment dans une critique scientifique. D'autres vont vous dire, ce sont des superstitions de bonnes femmes. Vous accrochez une patte de lapin ou un fer à cheval sur votre porte parce que vous avez l'héritage de superstitions des temps anciens. Vous les poursuivez parce que c'est une sorte de tradition populaire, et on vous l'a toujours répété, mais ceci ne repose sur aucun fait concret. Donc, les sciences occultes, ce seraient les survivances modernisées de superstitions des temps anciens. Autre chose, ils vous disent, pour croire aux sciences occultes, il faut être crédule, il faut être un peu ignorant, parce que tout ceci ne repose sur rien, encore une fois. Pire que ça, ils vous disent, le pire avec les sciences occultes, c'est que ça reprend le langage de la science. Ça vous parle de science, ça vous parle de chimie, ça vous parle de mécanique des astres, ça vous parle, dans le monde moderne, de physique quantique, d'action, ça vous parle de champ morphique et tout un tas d'autres choses. Mais en fait, en utilisant ce langage, ils ne respectent pas les codes. Par exemple, une des critiques que font les rationalistes sur les sciences occultes, c'est de dire « Les sciences occultes utilisent le langage scientifique, par exemple, je disais les tachyons, ou la physique quantique, ou le boson de Higgs, ou tout ce que vous voulez, mais il mélange allègrement ce qui est de la science démontrée, de la mécanique physique, avec des éléments non démontrés et hypothétiques, qui sont réfléchis dans un cadre scientifique, mais qui sont de l'ordre de l'hypothèse, mais qui ne sont pas des faits absolus. Par exemple, l'énergie sombre, par exemple, l'énergie du vide, les champs morphogénétiques, la noétique. Tout ceci est de l'ordre plutôt théorique, hypothétique, en science. Et les gens dans le domaine des sciences occultes vont manipuler ça comme si c'était des faits, en fait, tout simplement. Et donc, de ce fait, leur donner des interprétations qui sont tout à fait personnelles dans certains cas. Donc, ça ne respecte pas la méthodologie scientifique. Ce n'est pas rationnel, tout simplement. Citons quelques petits extraits savoureux pour expliquer tout ceci. Sextus Empiricus nous disait: ils élèvent la superstition comme une grande forteresse. Comprenez, une forteresse d'ignorance, à son point de vue. Lucrèce disait, tant la religion a pu persuader de mots, car ce qui peut naître et ce qui ne peut pas être fixé, chaque chose a ses limites déterminées. Là, il critique aussi bien les sciences occultes que la science. Plus récemment, Auguste Comte disait, les attrayantes chimères de l'astrologie, les énigmatiques déceptions de l'alchimie. Pierre Bayle disait que les présages des comètes ne sont appuyés d'aucune bonne raison. Fontanelle disait « Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. » Francis Bacon disait encore « L'astrologie, la magie naturelle et l'alchimie, trois petits points, sont pleines d'erreurs et de vanité. » Donc, les religieux, les philosophes et les rationalistes sont d'accord entre eux pour dire que les sciences occultes c'est très mal, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous allons trouver également les psychologues et les psychiatres. Eux aussi ont une dent contre les sciences occultes. Pourquoi ? Parce que ce serait une projection de l'inconscient. Les phénomènes occultes sont interprétés comme les produits psychiques issus de désirs, de peurs et de conflits internes. Troubles et dérèglements mentaux, possession, spiritisme ou vision sont analysés comme des états pathologiques, hystérie, dissociation, troubles psychiques divers. Une pensée magique primitive. Les croyances occultes prolongent des formes de pensée infantiles fondées sur l'animisme et des liens illusoires. Ce serait encore des biais cognitifs et des illusions mentales. L'esprit attribue des causes à des significations là où il n'y a que le hasard, des coïncidences ou des erreurs d'interprétation. Enfin, c'est un besoin psychologique de sens et de contrôle. L'occultisme répond à l'angoisse humaine en donnant l'illusion de comprendre et de maîtriser l'invisible. La critique des psychiatres ou psychologues nous disent « Les sciences occultes, c'est une réponse aux émotions humaines. » Parfois, on va invoquer la possession ou tout un tas d'états modifiés de conscience dans des domaines métaphysiques dus à des entités extérieures, alors qu'en fait, on serait sur des maladies mentales. Bipolarité, schizophrénie, hystérie diverses et variées, ou tout un tas de troubles qui sont présentés aujourd'hui. En réalité, toutes ces maladies mentales qu'on ne comprenait pas dans les temps anciens, eh bien, on l'expliquait par la pensée magique, le fait qu'il y ait des causes surnaturelles à ces événements psychiques qu'on ne comprenait pas. Ensuite, les sciences occultes permettent parfois de combler le vide de l'irrationnel. Il nous arrive des malheurs dans notre vie, on ne réussit pas ce que l'on entreprend, alors on va postuler une explication surnaturelle pour expliquer nos échecs personnels ou parfois aussi nos réussites personnelles. En gros, je gagne ou je perds et il y a une cause supérieure à ça qui est dans l'invisible. Et ceci, ce sont des mécanismes mentaux de protection pour supporter ses propres échecs ou pour supporter sa propre gloire dans la réussite. Il y a aussi l'idée que les sciences occultes trouvent de la matière. Elles se nourrissent de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Prenons quelques exemples pour l'illustrer. Dans la tradition occulte, il y a l'idée qu'il y aurait un fluide magique qui est présent en toute chose, dans tous les individus, et que l'on pourrait manipuler. Certaines personnes vont tenter de canaliser leur énergie dans leurs mains et de ressentir ce fluide dans leurs mains. Quand je fais ça, à l'instant, je sens des picotements. Alors évidemment, en tant qu'adepte de l'occultisme, je vais dire, je canalise mon chi ou mon énergie. Mais un psychiatre me dira que je suis en train de m'auto-convaincre, de m'auto-persuader qu'il se passe quelque chose dans ma main, alors qu'en fait, il y a simplement quelques petits phénomènes biologiques qui sont en train de se produire, et mon auto-conviction me génère l'idée que j'ai des pouvoirs magiques. Alors qu'en réalité, c'est un jeu de mon esprit, un jeu psychique, tout simplement. Autre chose, une personne qui a des difficultés dans sa vie entre en état de possession. Ses parents s'inquiètent, ils consultent le prêtre leur dit « Oui, la personne est possédée. Pourquoi ? On va chercher pourquoi. Ah, la personne avait fait une séance de spiritisme avant. » Le prêtre dit « Gagné, c'est ça, c'est le diable qui est à l'œuvre. » Alors qu'en réalité, un psychiatre vous dira peut-être « Mais oui, mais cette jeune personne a fait du spiritisme. Et donc, vu qu'elle est croyante, elle croit à l'existence du diable, elle voit des choses interdites. » Et donc, à l'issue, elle a peur, ça a engendré une peur en elle. Elle se dit, ah oui, mais j'ai fait du spiritisme, peut-être que je n'aurais pas dû. Et maintenant que j'ai fait ça, peut-être que le démon m'a vu et va pouvoir avoir une emprise sur moi. Et en faisant ça, mécanisme d'auto-hypnose, mécanisme d'auto-suggestion, et la personne finit par provoquer elle-même un trouble mental, une psychose ou une hystérie, et elle entre dans un état qui ressemble à ce que l'on va définir comme étant la possession. Et donc un psychiatre vous dira, eh oui, il y a une cause à la possession, on se l'engendre nous-mêmes par nos peurs, des mécaniques, des croyances et tout un tas d'autres choses. Voilà pourquoi les psychiatres et les psychologues critiquent les sciences occultes, car en fait, pour eux, c'est un système de pensée archaïsant qui joue sur les peurs, sur les émotions, et qui tente d'expliquer l'irrationnel avec une vieille soupe superstitieuse des temps anciens. En simple. Citons quelques extraits pour se faire plaisir. Jung nous disait, dans Projection de l'inconscient, tous les contenus de notre inconscient sont constamment projetés dans notre entourage. Quand nous ne sommes pas conscients de l'origine projective, nous n'avons d'autre ressource que de croire à l'appartenance réelle à l'objet. Toujours Jung nous disait, la prétendue unité de la conscience apparaît comme une illusion. Elle est l'expression d'un violent désir humain qui, en fait, n'est pas réalisé. Freud nous disait, l'hystérie souffre surtout de réminiscence. Plus tard, nous devons admettre que toutes les représentations inconscientes existent et agissent encore. Il peut se produire une dissociation de l'activité psychique. Tu vois, nous devons en faire un dogme, un rempart inébranlable contre la marée noire de boue de l'occultisme. Ça, c'était une phrase attribuée à Freud, qui est souvent simplifiée, où Freud aurait prononcé « Jung, promettez-moi de mettre fin à la marée noire de l'occultisme ». Ce n'est pas tout à fait la vraie phrase, mais le sens est identique. Alors, psychiatres, psychologues, religieux et auteurs rationalistes sont tous d'accord que les sciences occultes sont un poison pour l'esprit, du diable ou de la psyché, mais toujours un poison. Allons plus loin et voyons maintenant la critique des scientifiques et des sceptiques modernes. Pourquoi ces derniers critiquent les sciences occultes? Certaines raisons vont se recouper, mais restons dans un cadre de sciences dures, si l'on peut dire. Tout d'abord, les sciences occultes ne sont pas démontrées. Les sciences occultes reposent sur des affirmations sans preuve expérimentale solide, ni validation scientifique. Deuxièmement, ce n'est pas testable. Les phénomènes occultes échappent à des protocoles rigoureux permettant de vérifier leur réalité de manière objective. Ensuite, ce n'est pas reproductible. Aucun phénomène paranormal ne peut être reproduit de façon fiable dans des conditions contrôlées. Ensuite, cela ne fonctionne pas. Lorsque ces pratiques sont testées sérieusement, elles échouent systématiquement à produire les effets qu'elles revendiquent. Et enfin, cela s'explique autrement, en fait, tout simplement. Les phénomènes attribués à l'occultisme trouvent des explications rationnelles, des biais cognitifs, des illusions, des erreurs ou des fraudes. Alors, que peut-on dire de tout ça? Je vous citais tout à l'heure le cas de ma main où je concentre mon énergie pour avoir des effets. Mais on peut utiliser cette énergie dans l'occultisme. Par exemple, pour faire tourner un petit bout d'aluminium, vous prenez un petit piquet, vous mettez un bout d'aluminium dessus, vous faites vos mains, c'est un exercice courant en radiesthésie occultisme, et votre but est de, sans contact, sans souffler dessus, vous faites tourner le petit mécanisme d'aluminium. Donc, évidemment, si ça marche, c'est la preuve qu'il y a une énergie invisible à l'œuvre. Sauf que, évidemment, quand on le teste dans une situation, ça ne marche pas. Ou alors, si ça marche, eh bien on s'aperçoit assez rapidement, du moins à chaque fois que ça a été tenté, qu'en réalité il y avait une cause, c'est-à-dire un petit vent léger, le souffle de l'individu, des mouvements spécifiques de main ou d'entourage qui provoquaient les petits mouvements de l'aluminium. Donc de ce fait, il y a une autre explication au fait que le bout d'aluminium tourne. Cela ne fonctionne pas si on met une cloche dessus, c'est-à-dire si on rend totalement hermétique ce bout d'aluminium, ça ne marche plus. Et donc si on met des caméras, si on met des scientifiques tout autour, ça ne marche plus. L'occultiste, très déçu, rentre chez lui, et recommence pour dire quand même, et là boum, ça marche. Donc moralité, ce n'est pas reproductible dans les conditions expérimentales, et si ce n'est pas reproductible, on ne comprend pas une méthodologie stricte qui permet d'aboutir à cela. Voici les critiques base de la science. Elle vous dit, vous nous dites que vous pouvez parler avec les morts, faire du spiritisme, Mais au moment où vous parlez avec les morts, que vous obtenez des réponses, eh bien, toutes les réponses qui sont données sont du champ du connu, ou à minima de l'inconscient, des personnes autour de la table. Alors, vous ne nous avez pas démontré qu'il existait une connaissance objective inconnue de tous les membres qui soient ici, qui soit arrivée. Si vous nous apportez la preuve qu'il y a une connaissance totalement exogène au cercle, même inconsciente, qui apparaît, genre vous posez des questions et l'entité vous répond en sumérien, alors, tout ça en l'adaptant avec un alphabet planche Ouija, par exemple, et qu'aucun d'entre vous ne parle sumérien, eh bien là, ça sera la preuve que vous avez discuté. Si les messages sont cohérents, ce sera la preuve que vous avez discuté avec quelque chose qu'on ne comprend pas, sans aller plus loin, et qui prouve qu'il y a un phénomène non expliqué. Sauf que, visiblement, quand il y a les caméras, les scientifiques, ça ne marche pas. Les messages en sumérien sont soit incohérents, ne veulent rien dire, soit une personne parle la langue et, en fait, parle à la place de l'esprit, etc., etc. Donc, ce n'est pas démontrable, ce n'est pas reproductible, ce n'est pas testable dans certains cas. Pourquoi ce n'est pas testable dans certains cas? C'est le problème de la théière de Russell. Si je vous affirme qu'il y a une théière en orbite géostationnaire autour de Vénus, vous ne pouvez pas me prouver que j'ai tort. Donc, il y a certains éléments de l'ordre des sciences occultes où on ne peut pas tester. Parce que, en fait, on n'a aucun outil pour pouvoir tester. Si les occultistes, et moi le premier, vous disent « Je crois qu'il y a un fluide qui traverse ma main et qui me connecte à tous les autres événements autour de moi, mais ce fluide, il est invisible, il n'est pas atomique, il n'est pas fait de matière. » Le scientifique, il va vous dire « Bah oui, mais bon, t'es bien gentil, mais ton fluide, il est invisible, il n'est pas fait de matière, ou il ne répond pas à la logique atomique, comment veux-tu que je teste l'existence de ce fluide ?» Et là, on va dire « Ah oui, mais si tu peux pas démontrer que ça n'existe pas, c'est que ça existe. » Bah non, ça ne veut pas dire que ça existe. Ça veut dire qu'on ne peut pas démontrer son inexistence, mais on ne peut pas non plus démontrer son existence. Nous voilà bien avancés. Donc avec cette histoire, ça reste de l'ordre une croyance, ni plus, ni moins. Et une croyance, c'est comme l'existence de Dieu. Peut-on démontrer l'existence de Dieu par des faits objectifs? Il est difficile, si les croyants le tentent parfois, de démontrer objectivement l'existence de Dieu. Alors on va trouver, par exemple, des logiques. Par exemple, qu'il faut une cause des causes à l'origine de toute chose. Le fait que l'univers ou le cosmos serait ordonné. Et donc, si ordonné veut dire une intelligence qui ordonne. Il y a tout un tas de petites choses qui sont invoquées, qui sont réfutées par les scientifiques, mais à la fin, le problème est toujours le même. Si on ne peut pas prouver de façon absolue l'existence de Dieu, on ne peut pas non plus prouver qu'il n'existe pas. Donc, nous voilà bien avancés. Et bien, c'est pareil avec à peu près tous les domaines des sciences occultes. Voyez l'idée. Voilà pourquoi les scientifiques critiquent ardemment les sciences occultes et disent que c'est des pseudo-sciences. Mais on va voir que ça ira plus loin dans la critique. Je cite quelques petits... Oui, non, je n'avais pas mis d'extrait ici. Je vais juste terminer avec le dernier élément, c'est-à-dire la critique des sciences occultes issues des milieux ésotériques. Les milieux ésotériques, à commencer par René Guénon et quelques autres, disent que les sciences occultes sont une contrefaçon de la tradition. Les sciences occultes modernes sont perçues comme des imitations dégradées de véritables doctrines initiatiques. Ce serait ensuite une quête de pouvoir sans spiritualité. Elles visent à avoir ou obtenir des capacités, des influences ou des effets, au détriment de toute élévation intérieure réelle. Ensuite, elles se basent sur la fascination pour les phénomènes. Elles privilégient les manifestations extraordinaires plutôt que la compréhension symbolique et doctrinale. Ce serait ensuite un danger psychique, moral et spirituel. Elles exposent à des déséquilibres, à l'illusion ou à des dégradations intérieures, voire au satanisme. Enfin, ce serait une illusion du mental, une construction intellectuelle, psychique, au détriment de la voix du cœur, des émotions et de la spiritualité. Alors, ça c'est intéressant, puisque si les scientifiques, les religieux, les psychiatres, les psychologues, les rationalistes sont tous d'accord pour critiquer les sciences occultes, même les adeptes de l'ésotérisme et une bonne, très bonne partie d'entre eux critiquent les sciences occultes. Alors, reformulons un petit peu cette critique. Pourquoi les sciences occultes sont la bête noire de l'ésotérisme aussi? Ils vont vous dire, c'est une contrefaçon de la tradition. Pourquoi? Parce que les sciences occultes, en fait, l'objectif des sciences occultes, c'est d'obtenir des pouvoirs. Mais c'est quoi, en fait, le but de l'ésotérisme à la base? Éso, les choses de l'intérieur. En général, l'ésotérisme se place dans un cadre de croyance. Et donc, l'idée de l'adepte de l'ésotérisme, de l'initié, ce serait, par un cheminement personnel, en groupe ou tout seul, un cheminement, tenter de comprendre la gnose, c'est-à-dire les mystères de l'univers, par un cheminement complexe de réflexion intellectuelle, de méditation, de travail sur soi, recherché à l'intérieur, pour tenter, alors suivant les courants ésotériques, des choses légèrement variables, mais par exemple dans le soufisme, atteindre le alfana, l'ivresse divine, se reconnecter avec Dieu. Pour la Kabbale, remonter cet arbre de Séphiros, remonter à la source de l'Ein Sof, retourner à ce champ des possibles et retrouver cette lumière divine originelle. Dans le cadre de la gnose, l'idée serait de ne faire plus qu'un avec le divin, de retrouver notre nature primitive, ontologique, quand nous étions un être de pure lumière, avec notre corps glorieux. Donc l'idée, je résume, il existe d'autres courants, mais l'idée des traditions ésotériques, globalement, c'est toujours de comprendre les mystères du divin, quel qu'il soit, et de retrouver la nature originelle, sans souillure, de lumière divine. Et donc ils vont dire, oui mais les adeptes de l'ésotérisme, vous avec vos rituels magiques, vos sortilèges, dans le but d'accomplir des actions dans le monde matériel, en fait tout ceci, ça ne vous amène pas à comprendre le divin. Vous faites ça pour améliorer votre vie matérielle. Vous faites ça pour obtenir des prestiges, par orgueil. Vous faites ça, vous faites bouger de l'aluminium. Et ça sert à rien de faire bouger de l'aluminium. Vous faites des sortilèges de chance. Mais vous n'avez pas besoin de faire un sortilège de chance. Pourquoi? Parce que toutes vos actions sont bassement de l'ordre du monde de la matière. Et donc, ce monde de la matière, c'est la prison spirituelle. Donc vu que c'est la prison spirituelle, eh bien tous ces pouvoirs, ça vous enferme dans la matière, ça vous enferme dans un champ psychique ou astral, mais qui en fait fait que vous ne monterez pas plus haut. Vous n'irez pas jusqu'au plan subtil, les plans spirituels, le plan divin. Parce que vous vous arrêtez dans le monde des apparences, vous voulez obtenir, satisfaire, manifester. Et tout ceci vous détourne de la spiritualité. Donc par exemple pour René Guénon, les sciences occultes, c'est contre-initiatique, c'est au contraire une prison, une cage que vous vous imposez à vous-même et qui finalement vous amènera dans les abysses. Alors, évidemment, les adeptes de l'occultisme ne sont pas d'accord avec ce propos. Mais il y a d'autres raisons encore qui expliquent que le monde de l'ésotérisme critique les sciences occultes. C'est parce que beaucoup d'adeptes de l'ésotérisme ont été associés aux sciences occultes. Pire que ça, certaines associations, structures, sociétés secrètes qui se définissent comme étant de nature ésotérique, pratiquent des rituels de nature ésotérique, eh bien, on leur a prêté de faire de la magie, de faire de l'astrologie, de l'alchimie ou d'autres formes de sciences occultes. Et eux, ils disent « Ah non, 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 non !» Nous ne sommes pas des magiciens du dimanche, nous n'invoquons pas les fantômes ou les esprits lors de séances de spiritisme ou de table tournante, nous ne faisons pas de nécromancie, nous ne tentons pas de faire de la magie pour agir sur le réel, nous sommes dans une véritable démarche ésotérique. Alors pourquoi veulent-ils bien établir la frontière? Eh bien parce qu'il y a tout un tas de personnages qui ont fréquenté ces cercles et qui étaient des adeptes des sciences occultes. On pourrait citer par exemple Aleister Crowley, mage sulfureux, qui était un praticien des sciences occultes et qui a été lui-même dans la franc-maçonnerie. On pourrait citer Papus, Gérard Encausse, lui aussi a été dans la franc-maçonnerie, lui-même se définissait comme un occultiste, lui-même pratiquait de la magie opérative. On pourrait citer Oswald Wirth. Alors c'est intéressant Oswald Wirth, parce que ce dernier pratiquait de la magie opérative, c'était un très proche de Stanislas de Guaita, il pratiquait des rites sous tout un tas de formes. Mais il a été aussi un franc-maçon illustre et a même écrit de nombreux livres qui étaient lus par tous les francs-maçons. Aujourd'hui, dans la franc-maçonnerie ésotérique, ils vous disent « Attention à Oswald Wirth, attention à Oswald Wirth, c'est un peu n'importe quoi parce que c'est un occultiste !» Donc, il est très important dans les milieux ésotériques parfois d'établir une frontière en disant « L'ésotérisme, c'est une quête spirituelle de développement pour accéder au mystère du divin, quel qu'il soit. Les sciences occultes, c'est une contrefaçon qui vous enferme dans la matière, qui vous éloigne du divin, qui satisfait votre orgueil et votre ego et votre psychisme, mais pas plus. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. » Voici le fond de la critique des adeptes de l'ésotérisme, qui sert aussi pour eux à se rendre respectables. Façon de dire, oh, nous n'avons rien à voir avec ces gens, nous sommes beaucoup plus respectables. Quelques critiques qui ont été formulées, je cite notamment René Guénon qui nous disait « Susciter le spiritisme pour lutter contre le matérialisme, c'était en somme combattre une erreur par une autre erreur. Nous ne croyons pas, quant à nous, que le spiritisme soit moins pernicieux que le matérialisme, quoique ses dangers soient tout différents. » Citons encore Jules Bois qui dit « Cela se prétendent la plus abominable existence. Cela se prépare à la plus abominable existence. » En parlant des occultistes. « C'est, à bref délai, la perte de la personnalité et de la volonté. Leur âme devient de véritables réservoirs de larves, au sens mauvais esprit. Ils errent, désorbités, à moitié fous. Ce sont de vrais possédés que manient les forces mauvaises auxquelles il leur faut obéir. » Alors voyez, le portrait des sciences occultes est terrible. Alors, on n'a pas dit encore ce que tous ces milieux faisaient aux occultistes. Mais en tout cas, voyez bien que énormément de gens sont d'accord pour critiquer les sciences occultes. Ce sont de pseudo-sciences, ce sont des œuvres du démon, ce sont des choses de l'irrationalité, ce sont de l'inconscient, ce sont de vieilles superstitions archaïques, ce sont des choses orgueilleuses qui vous attachent au monde de la matière, etc., etc. Mais c'est absolument terrible, les sciences occultes. Comment des choses aussi terribles peuvent-elles encore exister de nos jours? Eh bien, pour les raisons évoquées par les adeptes de l'ésotérisme qui les critiquent. Parce que, en fait, le moteur des sciences occultes, il est très simple. Vu que ça offre des pouvoirs, des gens qui veulent du pouvoir vont s'intéresser à ça. Les gens qui veulent du pouvoir se mettent en relation avec des esprits mauvais pour en obtenir, pour améliorer leur vie matérielle. En gros, les sciences occultes existeraient parce qu'il existe de mauvaises personnes qui veulent obtenir des choses. Tout simplement, en fait. Et l'histoire s'arrêterait là. L'histoire pourrait s'arrêter là, en effet, sauf que c'est plus compliqué. Parce que la critique des sciences occultes n'a pas été que verbale. Elle a pris des formes, certes très variables au cours du temps, mais la condamnation de ces pratiques ou de ces doctrines s'est accompagnée de répression dans certains cas. Alors, partie 2, la guerre faite aux sciences occultes. Nous voici arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube, et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous rappelle que cette vidéo est un extrait d'une vidéo complète qui dure 2h20 et qui est réservée aux contributeurs ou aux souscripteurs de la Web TV, ceux qui financent mon travail, mes patrons, si vous préférez. Alors si vous aussi vous souhaitez participer à l'aventure et que vous souhaitez aussi accéder à la vidéo complète, eh bien vous pouvez me soutenir via le site Tipeee, le site de financement participatif. Vous faites un tip de 5€, vous me précisez par message le nom de la vidéo auquel vous souhaitez accéder et vous recevrez le lien et le code d'accès pour la visionner. Vous pouvez aussi passer par YouTube directement en devenant membre souscripteur au statut arcaniste minimum et vous accéderez à la vidéo dans la section des membres. Donc voilà, il y a les deux systèmes, vous utilisez celui qui vous arrange, que vous préférez, avec une petite différence. Sur YouTube, l'accès est permanent, c'est-à-dire que la vidéo change tous les mois et donc il faut la visionner, vous avez un mois pour la regarder, alors que sur Tipeee, l'accès est définitif par lien privé et de ce fait, vous y avez accès ad vitam aeternam. Dans tous les cas, je remercie ardemment tous les contributeurs de la Web TV. C'est grâce à vous que la chaîne existe, c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail, et c'est grâce à vous que l'aventure continue. Donc, des bisous et un grand merci. Et moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.